Bonjour. Cette émission hebdomadaire de Comaguerre est un peu particulière en ce sens qu'elle est enregistrée plusieurs jours avant la date où elle sera diffusée sur les ondes et elle va se consacrer à un seul sujet, contrairement à ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire faire un panorama de l'actualité internationale d'une semaine à l'autre. Pourquoi ? Pourquoi simplement parce que je serai absent le mardi de la diffusion et qu'en même temps, j'ai eu envie de consacrer cette heure d'antenne à des amis qui souffrent, et à un pays qui souffre. Alors les amis qui souffrent, ce sont les amis syriens que j'ai à Marseille, que je rencontre à l'occasion et que j'ai rencontrés dans des rassemblements qui ont eu lieu ces dernières semaines pour protester contre les attaques dramatiques aux droits de l'homme et à la liberté de penser qui s'exerce en Syrie dans le cadre du nouveau pouvoir qui y est installé, et en même temps de profiter de cette occasion pour essayer de resituer la souffrance de ces Syriens qui sont ici par rapport à la souffrance des Syriens qui sont là-bas, qui est évidemment infiniment pire, puisque en fait on a affaire à un pays qui est occupé par des non et gouverné aujourd'hui par des non-Syriens. C'est ça le premier bilan qu'il faut faire de cette situation qui est très, très particulière, qui est absolument inédite, qu'on n'a pas vu venir et qui, en fait, s'est installée, alors d'une façon assez chaotique, mais s'est installée avec une espèce de gêne. Je le dis parce qu'une gêne de la communauté des pays étrangers, c'est-à-dire on envoie un ministre rencontrer ceux qui ont soi-disant le pouvoir, on essaye de pas trop marquer de signes d'amitié, on ne reconnaît pas diplomatiquement le nouveau gouvernement, on constate un état de fait où effectivement les Syriens sont privés du pouvoir sur leur pays, puisque ce pouvoir est entre les mains d'étrangers, et c'est ça la première donnée, et c'est ça la première cause de souffrance de mes amis syriens d'ici, et encore plus des Syriens qui sont encore là-bas, c'est-à-dire que le pays est occupé par une série d'étrangers qui sont même pas d'accord entre eux, mais qui se sont partagés un territoire qu'on appelait jusqu'à présent, jusqu'au début du mois de décembre 2024, la République arabe syrienne. Partons de ça. Ce pays est soumis à plusieurs pouvoirs. Alors je le prends dans le... Je fais un tour d'horizon géographique. Dans la partie nord-ouest, ce pays est occupé par l'armée turque. Alors c'est pas nouveau, puisqu'en fait, depuis pratiquement 2011, l'armée turque s'était installée à Idleb, donc à la frontière de la Turquie elle-même, et s'était étendue ensuite jusqu'à Alep, la grande ville et la capitale économique de la Syrie. On en est toujours là, c'est-à-dire que l'armée turque est toujours là, à l'endroit où elle s'était installée et où elle a nourri les djihadistes, les terroristes islamistes. Bon. C'est ça qui est important, c'est que Idleb, la province occupée par la Turquie depuis 2011, a servi de lieu de formation, de lieu d'entraînement, de lieu de préparation aux islamistes qui ont pris le pouvoir à Damas au mois de décembre 2024. Donc, le premier occupant, c'est la Turquie, elle est toujours là, et elle a nourri en son sein, et volontairement, en pleine conscience de ce qu'elle faisait, des islamistes barbares. Puisqu'on a toutes les preuves qu'on peut leur appliquer ce qualificatif. Il y a ensuite, quand on va un peu plus vers l'est, donc au sud de la frontière turque, et quand on approche de l'Irak, il y a ensuite la zone que je peux qualifier globalement de kurde, encore que il n'y ait pas que des Kurdes, mais aussi des populations locales, des tribus locales qui étaient là dans cette zone, mais qui est en gros sous contrôle de l'armée américaine. Il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus. Les rapports existants, tout ce qu'on sait de l'activité de l'armée américaine va dans le sens de on protège cette zone kurde, parce qu'en fait on protège une zone qui échappe de ce fait à l'influence du gouvernement de Damas, de Bachar el-Assad. Alors, bien entendu, derrière l'armée des États-Unis, il y avait ce qu'on a appelé à un moment une coalition pour défendre contre l'arrivée de l'État islamique, contre Al-Qaïda, etc. Ça, c'était un prétexte. Alors, dans cette coalition, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la France en particulier, mais en gros, c'était une opération donc montée par les États-Unis, pour qu'une partie du territoire de la République arabe syrienne échappe à l'autorité de cette République arabe syrienne et qu'en particulier la République arabe syrienne soit privée, puisque c'était de ces régions-là qu'elle en avait la perte, qu'elle soit privée de son pétrole et de son gaz, principalement de son pétrole. Les zones de production pétrolière donc, de la République arabe syrienne sont, depuis 2011, depuis le début de ce qu'on a appelé la guerre civile, qui n'est pas civile du tout, qui est un morceau d'une guerre mondiale en cours, c'est là-dessus qu'il faut absolument insister, depuis 2011, donc, la Syrie est privée de son pétrole. La Syrie avait du pétrole et elle en avait certainement moins que l'Irak ou que les Saoudiens ou que les Émiratis, mais elle avait une gestion très très différente de son pétrole, c'est-à-dire qu'elle disait « j'en extrais pour mes besoins, j'en exporte éventuellement un petit peu, mais je suis autosuffisante, je n'épuise pas ma ressource, je ne cherche pas à rentrer dans les politiques des grands émirs et de l'Arabie et des Saoudiens de dominer un marché mondial. Et je ne cherche pas, ça a une conséquence très concrète, c'est que je ne veux pas que mon économie soit une économie de rentier. C'est-à-dire que je vends du pétrole, il est cher, je me porte bien, je vends du pétrole, il est pas cher, je me porte mal. » La politique industrielle et la politique économique de la République arabe syrienne était une politique visant à l'autonomie à tout point de vue et donc à utiliser la ressource énergétique pour ses propres besoins et pour son propre développement. Et dans ce développement, il y avait effectivement de l'industrie. J'ai cité le nom d'Alep, donc capitale industrielle. Il y avait une volonté de progrès technique et scientifique pour avoir justement une base industrielle importante, avec une volonté de recherche d'autonomie et même d'indépendance. Je vais parler du cas de l'industrie pharmaceutique. Avoir une industrie pharmaceutique autonome, indépendante, nationale, j'allais dire, c'est un atout et ça permet d'éviter d'être dépendant d'une puissance extérieure qui, à un moment donné, va vous dire « je vous prive de médicaments et votre population souffre ». Bon, ça ne pouvait pas se faire parce qu'effectivement, la Syrie était capable de se fabriquer elle-même ses médicaments, pas tous, mais elle avait la recherche de cette autonomie-là. C'était vrai donc au domaine énergétique, domaine industriel en particulier, certains comme le domaine pharmaceutique et quelques autres. Et donc, il y avait un résultat très très concret avec une unité de mesure qui s'applique dans le monde entier, c'est-à-dire que la Syrie n'était pas dépendante du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La Syrie était libre de ses mouvements et de sa politique économique nationale. Ça, c'est tout à fait important, et c'est tout à fait important parce que dans la mesure où ça a enlevé aux États-Unis en particulier un moyen de contrôle dont ils usent et dont ils abusent sur le reste de la planète, les États-Unis ne pouvaient pas priver la Syrie de dollars puisque la Syrie ne dépendait pas de l'arrivée des dollars venant de Washington. Ça, c'est tout à fait important et c'est ce qui la distingue radicalement de tous les autres pays arabes voisins qui dépendaient puissamment du financement des États-Unis et qui étaient donc beaucoup plus soumis à la pression politique des États-Unis puisque à travers les dollars du Fonds monétaire international et les dollars de la Banque mondiale, les États-Unis pesaient sur la politique nationale de chacun des États qui demandaient, qui avaient besoin de dollars, qui avaient soif de dollars. Et donc la perte d'indépendance était réelle, et c'est pour ça, en gros, que la République arabe syrienne, qui était donc une république, avait une liberté de politique et une liberté de ton sur la scène internationale que les autres ne pouvaient pas avoir. Alors ils étaient, évidemment, les coffres étaient pleins d'argent à Riyad et à Dubaï, etc., et à Abu Dhabi, mais ça ne donnait pas la liberté de parole, puisqu'il y avait cette dépendance du dollar, même si on en avait beaucoup, il y avait quand même un lien qui était maintenu, et qui était maintenu aussi par la force militaire. Par la force, le fait d'utiliser du matériel militaire en permanence que les États-Unis vous vendaient. Et donc, j'insiste là-dessus parce que dans l'ensemble des pays arabes, la position de la Syrie, de la République arabe syrienne, était totalement différente de celle de tous les autres. y compris, alors il y avait une autre république qui est la république d'Égypte, il faut la citer, mais l'Égypte, avec son énorme population, plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui, était-elle aussi dans une situation de dépendance, soit des financiers saoudiens qui l'aidaient à l'occasion, mais ça a donc limité la liberté politique de l'Égypte, soit des finances des États-Unis ou du blé des États-Unis pour nourrir les 100 millions d'habitants en question. Donc retenons bien ça, la République arabe syrienne est un corps un peu particulier et n'a rien de commun avec tous ses voisins du monde arabe ou même de ce qu'on appelle la Ligue arabe. C'est ça qui va lui être reproché. Donc je repars de cette occupation. Donc j'ai parlé donc des Turcs dans le nord-ouest, des Kurdes avec les Américains derrière dans le nord-est. Je n'ai pas encore parlé du sud-est avec l'arrivée de l'armée israélienne qui s'est installée sur les hauteurs du Golan et qui s'approche de plus en plus de Damas. Et j'en arrive et j'en termine par l'équipe actuelle au pouvoir à Damas. Alors cette équipe actuelle au pouvoir à Damas, elle est arrivée depuis l'espèce de colonie, le centre de formation terroriste que la Turquie avait installé à Idlib, et elle s'est installée avec du matériel qu'elle avait, qu'on lui avait fourni, qui avait été donc fourni avec les finances des Émirats et de l'Arabie Saoudite, et elle a pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir, alors... Parce que le pouvoir de la République arabe syrienne, donc le pouvoir du régime, comme on dit, s'est effondré en quelques jours. Et pourquoi il s'est effondré? Alors, venons à ça. Donc, triple occupation. Les terroristes islamistes fabriqués et entretenus par la Turquie et financés par les monarchies arabes. Israël et les États-Unis dans la zone trouble du Kurdistan syrien à la limite de la frontière irakienne. Alors pourquoi la limite de la frontière irakienne? Parce que ça permet effectivement à l'armée des États-Unis qui est sur place et qui a tout ce qu'il faut comme matériel, comme troupes et tout en Irak, de l'autre côté de la frontière, elle a juste à passer la frontière, soit du côté jordanien, soit du côté irakien, et elle amène son matériel. Donc la pénétration de l'armée des États-Unis sur le territoire de la République arabe syrienne est d'une grande facilité, et elle était reconnue de facto sur les cartes qu'on pouvait observer. On savait qu'à tel endroit, il y avait une base américaine, à tel endroit, il y en avait une autre. Ça avait été reconnu. Alors pourquoi l'armée américaine avait, il y avait l'aspect politique, c'était pour lutter contre l'État islamique, sous ses différentes formes, les islamistes radicaux, tueurs, sous les différentes formes. Mais en fait, pour protéger, ça c'était une reconnaissance qu'avait fait Trump pendant son premier mandat, il s'agissait de protéger les intérêts pétroliers d'une des grandes compagnies pétrolières américaines, qui s'appelle Conoco, qui donc exploitait le pétrole, donc volait le pétrole de la République arabe syrienne. Et donc, M. Trump disait, ben, moi je protège le voleur parce que c'est mon voleur, hein. Donc, ce n'est pas un voleur, c'est une firme des États-Unis. Une firme des États-Unis, ça peut aller voler n'importe où, puisque ça s'appelle l'impérialisme, et donc sous sa forme la plus brute et la plus crue. C'est, les boîtes américaines peuvent voler tout ce qu'elles veulent, puisque derrière, il y a l'armée américaine qui les protège. On a vraiment un cas d'école sur ce que c'est concrètement l'impérialisme. Ce n'est pas seulement un discours, c'est « je m'approprie vos ressources ». Ce langage de Trump, on le connaît puisqu'il l'utilise abondamment depuis qu'il est à nouveau à la tête de la Maison-Blanche. Il l'utilise à propos de l'Ukraine. Je veux ceci, je veux cela, etc. C'est ça l'impérialisme. Je veux vos richesses et je veux en tirer moi les bénéfices. Et puis si vous n'êtes pas gentil et pas discipliné, je tue. Alors il n'a pas encore trop tué Trump, il tue un peu au Yémen, il a commencé, il laisse Netanyahou tuer à Gaza et en Palestine, mais lui-même fait encore attention pour combien de semaines, on verra, à ne pas utiliser directement son arme. Bon, alors, donc voilà ce qui se passe. La Syrie aujourd'hui est occupée par des Turcs, par des gens qui pourraient être syriens s'ils voulaient, mais ils n'ont pas voulu, bon ça s'est mal passé, des Kurdes qui habitaient en Syrie depuis longtemps, dans la partie nord, des Israéliens sionistes dans la partie sud-est, et au milieu, autour de Damas, et jusqu'à, en gros, à Idlib, et puis sur la côte méditerranéenne, les équipes formées donc par l'impérialisme et par la Turquie en particulier. Ces équipes sont très très particulières en ce sens qu'elles ne sont pas constituées de Syriens. Il n'y a donc, ça veut dire, résumons, la Syrie aujourd'hui est gouvernée par une série de pays étrangers ou de forces étrangères. Parce que le pays, enfin, l'équipe qui est au pouvoir à Damas, ce n'est pas un pays étranger qui l'a mis, c'est un agglomérat de coupeurs de tête et de barbares qui a été recruté, qui a été formé et qui a été financé par l'extérieur. Et donc, ça n'a rien de syrien. Il y a dedans, je le disais, il y a dedans des Tadjiks, il y a dedans des Ouïghours, il y a dedans des Tchétchènes, il y a dedans des Turkmènes. Ben voilà, tout le, j'allais dire, un ramassis. Permettez-moi le terme, un ramassis de terroristes islamistes barbares qui déshonorent l'islam, à mon avis, parce que l'islam, c'est pas ça, hein, mais l'islamisme, c'est un terrorisme, c'est une barbarie, c'est une erreur de tir, c'est une erreur de choix, c'est une mauvaise lecture de l'islam, mais là n'est pas le débat de ce jour. Et pourquoi donc j'en arrive à la conclusion, à la première conclusion? Les Syriens, les vrais, ceux qui vivaient en Syrie dans le temps où Bachar el-Assad était au pouvoir, sentent bien qu'ils sont occupés par une série de forces étrangères ou d'agents de l'étranger ou d'étrangers, hein, puisque le Tadjik ou le Ouïghour qui est ministre dans le gouvernement de M. Al-Jolani, c'est un ministre d'une force d'occupation. La Syrie est un pays occupé dans sa totalité. Et c'est là que il faut commencer à se poser des questions. Alors, la souffrance des Syriens, elle s'explique par ça. Soit qu'ils soient sur place et ils risquent leur vie s'ils sont mal vus par le pouvoir de facto des terroristes à Damas, soit qu'ils soient à l'étranger et qu'ils sachent très bien que la Syrie ne s'appartient plus. Elle a été livrée à des puissances étrangères pour des questions de domination. Alors, on a les motifs de la domination sont variés, c'est-à-dire on a dans le cas de la Turquie une espèce de ressuscité, j'allais dire, un renouvellement de l'ottomanisme, c'est-à-dire le rêve que de l'Empire ottoman de l'époque, c'est-à-dire l'Empire ottoman voulant être le maître de tous les pays musulmans. Ce qu'il a fait d'ailleurs dans la Syrie historique, puisqu'à un moment donné, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 1919, 1920, la Syrie était un morceau de l'Empire ottoman. Alors c'était un morceau déjà où il y avait un petit peu. Alors l'Empire ottoman, on sait qu'il était très fermé, très très dur sur l'Anatolie, puisqu'il y a d'abord dans les 4 siècles de vie de l'Empire ottoman, il y a eu des évolutions dans le pouvoir, mais on sait que par exemple l'Égypte et dans une moindre mesure la Syrie étaient sous tutelle de l'Empire ottoman, mais les Ottomans et les Turcs n'y faisaient pas la loi tout le temps. Il y avait une certaine marge de manœuvre sur place, on pouvait avoir plus de liberté d'expression qu'on en avait directement à Istanbul. Donc l'Empire ottoman, c'est un empire tellement grand, alors bien qu'il soit réduit progressivement, tellement grand que dans ses parties périphériques, et en particulier dans les pays, dans les parties arabes, donc c'est pour ça que j'ai cité la Syrie et l'Égypte, il n'était pas tout à fait maître de tout, il ne faisait pas tout à fait tout ce qu'il voulait. Mais il est tombé, et donc il a fallu que la Syrie devienne autre chose de ce qu'elle était, et que la Syrie, en fait, revienne à son passé. Et c'est là que, il faut bien comprendre que la souffrance des Syriens, qu'ils soient ici sur place ou qu'ils soient là-bas, la souffrance est totale puisque la Syrie, elle est porteuse d'une histoire qui a au moins 3 millénaires, voire un peu plus. C'est-à-dire que si vous regardez toute l'histoire, et je ne vais pas passer ces 3000 années en revue, à tout moment, depuis en gros 1500 ans avant Jésus-Christ, il y a un endroit sur la carte du monde, dans cette région-là du monde, qui porte le nom de Syrie. Et ça ne s'invente pas, hein. Ça veut dire que c'est une réalité. Alors, bien sûr, la limite géographique bouge, mais il y a toujours, d'une part, cette côte méditerranéenne, donc là où il y a les villes dont les noms sont connus, Latakia, Tartous, etc. Et puis l'Euphrate. Donc le deuxième des deux fleuves de la Mésopotamie, l'autre étant le fameux Tigre, on se souvient de ça. Bon, entre cet Euphrate donc qui est une eau dans une région où il y a de la sécheresse, où il y a des parties désertiques et tout. Donc l'eau, c'est une vraie fortune, c'est un vrai don du ciel, si j'ose dire. Et cette côte méditerranéenne qui ouvre donc la Syrie au monde méditerranéen, là, il y a une entité qui s'appelle la Syrie, alors dont les limites peuvent bouger, mais ce nom n'est jamais disparu. N'a jamais disparu, c'est une donnée de l'histoire du monde. Il était connu à la fois des Chinois, puisque c'est là qu'ils voulaient faire arriver la route de la soie, hein, venant donc des profondeurs du continent. Il était connu des Romains qui ont installé, et il faut savoir que l'Empire romain a mis la main sur la Syrie, mais c'était la province syrienne de l'Empire romain, comme on avait la province gauloise de notre côté. C'était donc la qualité, la nature, j'allais dire, l'essence même syrienne était respectée. Les Romains ne faisaient pas disparaître les populations. Ils installaient leur système de gouvernement, ils avaient leur légion, ils avaient leur système de transport, etc. Mais ils ne faisaient pas disparaître la réalité des pays. À telle enseigne que quand l'Empire romain est fini, chacun a repris sa vie à lui. Et donc là, on avait effectivement une province syrienne de l'Empire romain, dont la ville la plus célèbre s'appelait Palmyre. Alors, vous avez peut-être ce nom en tête, mais Palmyre, donc, c'était l'échelon le plus avancé vers l'est de l'Empire romain en Syrie, et de tout l'Empire romain. Et de Palmyre, cette ville romaine, avec tous ses temples et tout, dont vous connaissez peut-être les images, de Palmyre, il partait des caravanes qui assuraient la régularité du commerce entre l'Empire romain et l'Inde, déjà à l'époque. Déjà, alors on est un peu après Alexandre le Grand, le chemin était connu et il avait été inauguré, disons, par Alexandre le Grand, mais Palmyre était effectivement la capitale des échanges entre l'Empire romain et l'Inde, avec toutes les histoires sur l'Inde, les épices, vous connaissez tout ça. Ça fait partie aussi de l'histoire de la Syrie, hein, la Syrie romaine. Et puis après, il y a eu d'autres Syries. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans cette Syrie, on a parlé toute une série de langues. On y a parlé le grec, on y a parlé un peu le latin, puisqu'on était une province. On y a parlé le grec parce que les Grecs y étaient venus. Il y avait des Grecs qui étaient là. Il y a le nom Souria existe en grec, dans le grec ancien. Il est connu. Donc l'existence historique de ce lieu aux confins un peu mobiles est avérée. Et donc, quand vous voyez un Syrien, ou si vous croisez un Syrien, et qui vous dit qu'il souffre de la situation en Syrie, il est porteur, même s'il n'en est pas absolument conscient individuellement, mais il est porteur de fait d'une réalité qui remonte à 3000 ans, de l'existence de quelque chose, un morceau de la terre qui s'appelle, et qui s'appelle depuis 3000 ans, la Syrie. Et ça ne s'efface pas du jour au lendemain. Et ça ne s'efface pas parce qu'il y a des soldats turcs ici, des soldats américains là, des soldats sionistes là, et des terroristes coupeurs de gorge ailleurs. C'est pas possible. C'est pas possible, car si ça devenait possible, ça voudrait dire, je pèse mes mots parce qu'on ne l'a pas encore utilisé concernant la Syrie, ça voudrait dire que si ça devenait possible, ça voudrait dire qu'il y a eu un génocide en Syrie contre la population syrienne. Et je pèse les mots, alors ça n'a pas été utilisé pour l'instant, on en parle, et heureusement, on en parle avec juste raison pour la question de la Palestine, de Gaza et de la Cisjordanie, c'est vrai, mais de fait, l'attitude, la politique, le comportement, l'orientation des différents régimes, que ce soit le régime sioniste, que ce soit le régime d'Erdogan, que ce soit d'autres régimes, et la politique des États-Unis en général, fait que le génocide syrien est en projet, il est en cours d'exécution, et tout ce que vous pouvez entendre d'horrible en disant on a éliminé quelques milliers d'Alaouites, et puis on a trouvé quelques chrétiens qui étaient encore par là, on les a éliminés, et puis on a éliminé d'autres gens, parce que de toute façon, l'armée de M. Jolani, le soi-disant président de la Syrie, est une armée faite de bouts et de morceaux, et faite de gens qui se servent eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas une armée régulière, bien organisée. C'est un ramassis de bandes d'égorgeurs et chacun pille là où il est et chacun coupe les têtes là où il est et il vole les habitants qui sont morts. Bon, c'est ça la réalité. Bon. Donc comprenons bien que c'est l'avenir du peuple syrien en tant que peuple syrien qui est en cause. à telle enseigne que je vais vous donner quelques exemples concrets de comment ça fonctionne. Comme le nouveau régime essaye de faire fonctionner, pour se donner bonne allure au niveau international, il essaye de faire fonctionner le pays. Donc il faut des fonctionnaires, des ministères et tout. Et bien, je peux vous dire que tout ce qui est, tous les fonctionnaires syriens qui étaient en poste dans ces ministères, ce n'étaient pas tous des gens qui se prosternaient devant Bachar el-Assad. C'était des Syriens, des citoyens syriens qui gagnaient leur vie, ils étaient fonctionnaires. À des petits niveaux, hein. Ils étaient fonctionnaires de tous les jours, hein, l'instituteur, le douanier, etc. Bon. Ils sont mis à la porte ou alors leurs salaires sont diminués de telle façon qu'ils sont obligés de mourir de faim s'ils n'ont pas un autre travail ou s'ils n'ont pas quelqu'un qui les aide. C'est ça le début du génocide. C'est-à-dire, vous êtes Syrien, on a besoin de vous parce qu'il faut quand même qu'on donne l'impression que le pays tourne sous le nouveau régime, mais on va vous traiter de telle façon que vous allez partir ou que vous allez mourir de faim, que vous allez vous livrer à des activités pas claires et que vous finirez en prison. Et comme la prison, on évite de la remplir, on vous coupera la tête si besoin. Bon. C'est ça, la souffrance du peuple syrien, elle est là, il est menacé dans son existence même, bon, par des gens qui ne sont pas syriens. Soyons très très clairs là-dessus. Alors comment on en est arrivé là? Ben ça a mis assez longtemps, ça a mis assez longtemps, mais je vous dis, ce qu'il faut retenir, c'est que cette république arabe syrienne était quand même un corps tout à fait particulier dans l'ensemble du monde arabe et du monde musulman. D'une part parce que c'était une république qui était laïque, c'est-à-dire que tous les cultes y étaient représentés et pouvaient s'y exercer, c'est-à-dire qu'il y avait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, des orthodoxes. Il y avait jusqu'à. Il y a eu un patriarche, le patriarche d'Antioche faisait partie, était un des grands patriarches de l'Église orthodoxe. Alors il y avait en gros, je résume parce qu'on ne va pas passer le temps à parler de l'Église orthodoxe, mais en fait je résume, il y avait un patriarche à Moscou, il y avait un patriarche à Constantinople, et il y avait un troisième patriarche à Antioche. Bon. Donc les chrétiens orthodoxes qui vivaient dans cette région-là du monde dépendaient du patriarche d'Antioche. Pourquoi le patriarche d'Antioche et pourquoi je dis ça à la Syrie? Parce qu'en fait, effectivement, Antioche a été, jusqu'à une intervention extrêmement regrettable de la Troisième République française, a été un territoire, une province syrienne dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que vers, je crois que c'est exactement 1938 ou en 39, le gouvernement, donc c'est Dallagnier qui est à la tête du gouvernement français, le gouvernement français décide de céder la province donc syrienne, la province d'Antioche, ou on l'appelle le Sandjak d'Alexandrette, Alexandrette ça s'appelle Iskenderun maintenant en Turquie, décide de céder cette province donc arabe, à majorité donc de chrétiens orthodoxes, à la République de Kemal Atatürk. Alors le jeu est tout simple, ça veut dire que Atatürk a posé l'espèce de question de confiance en disant si vous me donnez ça, je serai sage, je ne participerai pas à la guerre mondiale et surtout pas du côté des hitlériens. Et donc ça a suffi. Bon, donc la Syrie a perdu là un morceau qui en faisait partie historiquement depuis très très longtemps. Et donc les racines orthodoxes, elles étaient là. Et puis, toutes les autres confessions, il y avait des chrétiens d'Orient, il y avait des chrétiens de rite grec, il y avait donc dans l'islam toute une série de variétés, donc alaouites, druzes, des chiites, des sunnites et tout. La République arabe syrienne avait cette particularité que y compris les athées, il y avait aussi des communistes en Syrie qui étaient reconnus, il y avait un parti communiste qui n'était pas interdit, etc. Donc la République laïque en avait toutes les caractéristiques, c'est-à-dire toutes les confessions s'y exerçaient librement. Ça, c'est très très important parce que ça n'était évidemment pas le cas en Arabie Saoudite, où c'est le wahhabisme, donc c'est l'islam à la mode saoudienne qui fonctionne. C'est pas le cas non plus, enfin, c'est pas le cas dans les autres pays. Et donc, on a là un cas très particulier. Et c'est ce cas très particulier qui fait l'objet donc d'une attitude brutale. Il s'agit d'éliminer ce cas particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir que la politique menée à la fois par Erdogan et son parti, donc son parti islamisant mais néo-ottoman, à la fois par les monarchies du Golfe et les monarchies pétrolières, ça consiste à dire ce régime-là faisait tâche, il faut maintenant revenir, alors je dis moi, je le dis pour ce que j'en pense, il faut revenir en arrière. Cette République-là nous gêne parce qu'elle ne participe pas à notre activité et elle soustrait un certain nombre d'Arabes, puisqu'il s'agit d'un pays arabe, à l'influence, à notre influence, à nos dollars, à notre pétrole et à nos courants religieux et à nos imams. C'est bien ça qui est en jeu. C'est bien ça qui est en jeu. Et un des outils qui a été utilisé contre la République arabe syrienne s'appelle les frères musulmans. Alors les frères musulmans, c'est une espèce de secte transnationale qui est là pour défendre les intérêts d'une bourgeoisie musulmane très réactionnaire, pas progressiste du tout, qui voudrait, au nom d'un certain islam à elle, prendre le pouvoir et l'exercer sans contrôle et surtout en ne laissant pas la place aux autres. C'est-à-dire que dès l'instant où vous mettez les frères musulmans au pouvoir, ils interdisent toutes les autres religions. On a vu le cas en Égypte récemment, puisque la révolution qui a renversé Moubarak a débouché sur un régime qui était gouverné par un membre des frères musulmans, M. Morsi, et qu'à partir du moment où il est arrivé, il a voulu éliminer de la scène égyptienne tous ceux qui n'étaient pas de ce courant-là. En particulier, alors la minorité chrétienne qui est importante, c'est une dizaine de millions ou quinzaine de millions de coptes, donc c'est des chrétiens égyptiens, et donc les frères musulmans, quand ils sont au pouvoir, éliminent tous les autres courants idéologiques et religieux. Donc c'est une forme de dictature musulmane. Alors, c'est pas l'émir, c'est pas le roi d'Arabie Saoudite, mais c'est une forme de dictature, donc d'une classe bourgeoise, réactionnaire, sur un pays arabe. Ça, alors, le régime, la République arabe syrienne, s'en est défendu, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a eu une tentative de prise de pouvoir, d'élimination du pouvoir donc de Hafez al-Assad par les frères musulmans. Ça, c'est le contexte. Alors, comment ça se passe? Comment je retourne en arrière maintenant? Pourquoi tout d'un coup, cette République arabe syrienne est tombée? Alors, c'est pas tout d'un coup du tout. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la République arabe syrienne est mise sur une liste des pays qui dérangent par les États-Unis d'Amérique en l'an 2000-2001. C'est-à-dire qu'au moment où, tout de suite après les attentats du 11 septembre, George W. Bush annonce qu'il lance la guerre contre le terrorisme, il y a une liste qui est publiée et qui a été rédigée par un général américain qui commande la zone centre du monde, le général Wesley Clark, et qui dit, voilà la liste des régimes qui doivent disparaître, qui nous dérangent. Alors, qui nous dérangent? Alors, ils ne sont responsables pas du tout des attentats du 11 septembre, puisqu'on sait, on a tout de suite dit que c'était Ben Laden, donc c'est un Saoudien. Par contre, il n'est pas question, alors c'est là le paradoxe, il n'est pas question de faire tomber le régime saoudien, il est au contraire question de faire tomber le régime irakien, ce qui sera fait en 2003, de faire tomber le régime libyen, ce qui sera fait en 2011, d'essayer de faire tomber le régime égyptien, là, ça sera un petit peu plus long, mais ça débouchera sur la péripétie que je vous dis avec les frères musulmans, et bien entendu, sur la liste, en figurant en bonne place, il y a la Syrie de Bachar, d'Hafez al-Assad. Il s'agit de faire disparaître ce régime. Bon. Et donc là, on n'a pas du tout un choix lié à la réalité des attentats du 11 septembre, ni l'Irak, on l'a su après, on dit, ni la Syrie, ni l'Égypte ont participé en quoi que ce soit aux attentats du 11 septembre. Au contraire, on a accusé les Saoudiens. Et donc, curieusement, on accuse les Saoudiens et on dit, puisqu'ils ont fait le 11 septembre, on tire sur les Syriens et sur les Égyptiens. Et bon. Et sur les Libyens. Bon, bizarre, il s'agissait en fait de profiter de la faiblesse du camp soviétique, puisque on est en 2001, l'URSS a été donc a explosé 10 ans plus tôt, et en 2001, Poutine vient d'arriver au pouvoir, mais on sait très précisément aux États-Unis et en Angleterre, enfin dans l'OTAN, que la Russie est très très affaiblie. On ne sait pas encore comment et de quelles conditions elle va se redresser, mais on la sait très affaiblie et on sait qu'elle avait des amis. il y avait une politique arabe de l'URSS qui existait. À certains moments, effectivement, l'URSS était intervenue pour arrêter des tentatives des États-Unis de faire des révolutions dans les pays arabes. Et donc, effectivement, il y avait un vrai acquis, y compris dans la diplomatie soviétique dont a hérité maintenant la diplomatie russe. Il y avait des relations assez étroites avec les pays et même des relations militaires. Et donc, vous aviez à l'époque, dans les armées syriennes ou égyptiennes et tout, des officiers formés à Moscou ou dans les écoles de guerre soviétiques et de l'armement qui venait de Russie. Et ça, évidemment, en 2000, après les attentats du 11 septembre, il est décidé par la direction des États-Unis de dire c'est le moment de bien montrer que l'URSS c'est fini et que la Russie elle en a plus pour longtemps, et donc on va couper toutes les racines qui pouvaient exister, tous les liens qui pouvaient exister entre la Russie, entre l'URSS et ces pays arabes qui ont plus du pétrole, et pour les mettre vraiment une bonne fois pour toutes dans notre camp et qu'on n'en parle plus. Et c'est ça qui explique ce qu'on a appelé la guerre civile syrienne, qui n'est pas du tout une guerre civile. C'est-à-dire qu'on a déjà, dès 2011, quand soi-disant cette guerre commence, d'une part, je le rappelle, la Syrie est sur la liste des régimes à faire tomber, la liste de Wesley Clark, elle est connue, elle est officielle, donc elle est sur la liste des pays à faire tomber. Il faudra le temps de la faire tomber, mais on y arrivera, et on y est arrivé au bout de 14 ans. Donc entre 2011 et 2024, 13 ans, on y est arrivé. On y est arrivé dans quelles conditions? Alors, je ne vais pas donner mon opinion là-dessus, je vais vous faire part des réflexions donc, du début janvier 2025 d'un monsieur qui s'appelle monsieur Peter Ford, ancien ambassadeur britannique en Syrie. Écoutez bien, ancien ambassadeur britannique en Syrie. Il est interrogé par un journaliste et voilà quelques questions qui lui sont posées et voilà les réponses qu'il y fait. Alors, première question, pourquoi pensez-vous que l'armée et le gouvernement syrien se sont effondrés si rapidement? Peter Ford. Tout le monde a été surpris, mais avec le recul, nous n'aurions pas dû l'être. Pendant plus d'une décennie, l'armée syrienne a été vidée de sa substance en raison de la situation économique extrêmement difficile de la Syrie, principalement causée par les sanctions occidentales. La Syrie ne disposait que de quelques heures d'électricité par jour, n'avait pas d'argent pour acheter des armes et ne pouvait pas utiliser le système bancaire international pour acheter quoi que ce soit. Il n'est donc pas surprenant que l'armée ait été réduite à néant. Avec le recul, on pourrait dire que la surprise vient du fait que le gouvernement et l'armée syrienne ont réussi à repousser les islamistes. L'armée syrienne les a repoussés dans la redoute d'Idlib il y a 4 ou 5 ans, mais par la suite, l'armée syrienne s'est détériorée, elle est devenue moins prête au combat sur le plan technique et sur le plan moral. Et il explique là-dessus, les soldats syriens sont principalement des conscrits, alors que les djihadistes sont financés grassement par les monarchies arabes du Golfe. Ces soldats syriens souffrent autant que n'importe quel Syrien ordinaire de la situation économique vraiment épouvantable de la Syrie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. J'hésite à l'admettre, mais les sanctions occidentales ont été extrêmement efficaces pour faire ce qu'elles étaient censées faire, mettre l'économie syrienne à genoux. Nous devons donc dire, et je le dis avec un profond regret, que les sanctions ont fonctionné. Elles ont fait exactement ce qu'elles étaient censées faire souffrir le peuple syrien et susciter ainsi le mécontentement à l'égard de ce qu'ils appellent le régime. Les Syriens ordinaires ne comprenaient pas les complexités de la géopolitique et ils blâmaient le gouvernement syrien pour tout. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz, pas de pétrole, une inflation élevée, tout ce qui découlait du fait d'être coupé de l'économie mondiale et de ne pas avoir de partisans aux poches pleines. La Syrie était attaquée et occupée par de grandes puissances militaires, Turquie, États-Unis, Israël. Ouais, donc ce que je viens de vous dire est attesté par l'ambassadeur britannique en Syrie, occupé par des grandes puissances militaires, Turquie, États-Unis, Israël. Plus des milliers de djihadistes étrangers. l'armée syrienne était tellement démoralisée qu'elle n'était plus qu'un tigre de papier à la fin de la journée. Voilà qui est clair, les responsabilités sont bien établies. La Syrie a été saignée, la Syrie du gouvernement donc de Bachar el-Assad a été saignée par l'Occident avec la complicité de la Turquie et d'Israël. Alors, là, la France n'est pas signée parce qu'elle a participé gentiment à cette activité, mais effectivement, elle n'est pas allée beaucoup plus loin puisque l'affaire était prise en main par les gens beaucoup plus puissants sur place. Et le reporter interrogea à nouveau M. Peter Ford et lui dit « Pensez-vous que le Royaume-Uni et les États-Unis ont participé à l'entraînement des djihadistes avant l'attaque de décembre sur Alep ?» Peter Ford « Absolument. Les Israéliens aussi. Le chef de Hayat Tahrir al-Shaar, donc le Ahmad Hussein al-Shaara, M. de Al-Joulani, a très certainement des conseillers britanniques en arrière-plan. En fait, j'ai détecté la main de ses conseillers dans certaines des déclarations faites dans un anglais impeccable. L'orthographe de ces déclarations était américanisée, ce qui signifie que les CIA est également présente. Jolani est une marionnette qui dit ce qu'ils veulent qu'ils disent. Bon. » C'est clair, ce monsieur est ambassadeur, a été ambassadeur à Damas. Hein. Jolani est une marionnette qui dit ce qu'ils veulent qu'ils disent. Alors sur l'américanisation, vous savez qu'il y a des mots, par exemple, le mot travail ne s'écrit pas de la même façon en anglais, enfin aux États-Unis et en Angleterre. Hein. Dans un cas, il y a un U, dans l'autre cas, il n'y a pas de U. Labor, bon. Et donc, on peut reconnaître au libellé d'un texte qu'effectivement, qu'il a été écrit par un Américain ou par un Anglais, même si c'est du bon anglais. Et alors, la dernière question, enfin une autre question que pose le journaliste, quelle est la situation actuelle un mois après l'effondrement? Je rappelle que l'interview est du 6 janvier. Alors voilà ce qu'il dit. Il y a des escarmouches ici et là, mais dans l'ensemble, les islamistes et les combattants étrangers font la loi. Alors c'est moins vrai maintenant qu'on est au mois d'avril, mais c'était tout à fait la réalité dans les premiers jours de l'agression. Il y a des poches de résistance à Latakié, où les Alaouites se battent littéralement pour leur vie. Une grande partie des combats porte sur les tentatives de HTS, les dirigeants actuels, de confisquer les armes. Les Alaouites résistent et il y a des poches de résistance dans le sud où il y a des milices russes locales. Le HTS est très dispersé sur le terrain, il éprouve des difficultés à s'affirmer. Bien qu'ils aient eu le dessus sur l'armée syrienne, ils n'ont jamais eu à se battre. Effectivement, l'armée s'est effondrée. Je dirais qu'ils ne disposent que d'environ 30 000 combattants et répartis sur l'ensemble du territoire syrien. Ce n'est pas beaucoup. Il existe en plus une importante poche de résistance dans le nord-est où se trouvent les Kurdes, les alliés américains des Kurdes résistent. La soi-disant armée nationale syrienne, qui est un front pour l'armée turque, ne pourrait entrer en guerre à part entière contre les forces kurdes. Alors voilà, en gros, la situation est bien vue. Hein. Donc il y a trois pays qui ont mené la chute du régime, qui occupent maintenant, par force interposée ou en direct, c'est le cas de la Turquie et d'Israël, des sionistes, et on a un pays dont les Syriens sont dépossédés. C'est là qu'il faut revenir à une notion qui n'a pas été encore abordée, mais pourquoi cette mosaïque de religions, des orthodoxes, des catholiques chrétiens, des chiites, des sunnites, des druzes, des alaouites, etc., ont réussi si longtemps à vivre ensemble? Ça c'est le miracle syrien, et il faut savoir que ce miracle syrien, si je veux dire, date de très très longtemps, et il s'est exprimé encore dans la période, le siècle écoulé, disons, puisque au moment, alors je le rappelle, la Syrie était donc une province de l'Empire ottoman avec une certaine autonomie jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs se disent « maintenant on va s'occuper ». Les vainqueurs, en particulier les Britanniques et les Français, souvenez-vous, les accords Sykes-Picot, etc., se disent « on va diviser cette région-là du monde en fonction de nos intérêts ». Et il échoua la France, alors ça prend un certain temps, la tutelle sur la Syrie qui est orchestrée par la Société des Nations, c'est-à-dire qu'en fait on a affaire à un choix effectué par les États-Unis d'Amérique, qui disent ce morceau-là du monde, on va le contrôler, mais on va le faire contrôler par nos alliés. Donc une partie va être contrôlée par les Anglais, l'autre partie va être contrôlée par les Français. C'est ce qui amène donc à l'occupation par la société, le mandat donné à la Société des Nations, à la France sur la Syrie et le Liban, et à la Grande-Bretagne sur ce qui est aujourd'hui la Palestine. On en est là. Alors pourquoi ça s'est fait comme ça? D'une part parce que les Britanniques se sont bien débrouillés, parce que ils ont, bon, enfin, peu importe, la France se retrouve avec un pays qui a une réalité politique de longue date. Il y a une espèce de patrie syrienne, hein, je vous dis, les 3000 ans d'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont vraiment là derrière. Et donc la Syrie va résister à une première tentative. Alors avant l'installation de la Société des Nations, on essaye, dans le partage qui a été fait par Sykes et Picot, d'imposer un monarque arabe aux Syriens. Et les Syriens n'en veulent pas. Les Syriens n'en veulent pas. Et une fois, alors, parce qu'il y a un sentiment d'être Syrien. Ça, c'est une réalité, j'allais dire, de type patriotique. Il faut bien la reconnaître en tant que telle, parce qu'elle est toujours vivante et elle vient de très très loin. Bon, ils n'en veulent pas, et donc finalement, on va trouver la solution Société des Nations, mise sous tutelle donc par la Société des Nations à la demande des États-Unis, par la France. Et en fait, la France va très très mal se comporter, parce que la France va essayer de diviser, comme ça se fait aujourd'hui, le territoire de la Syrie entre des entités ethno-religieuses. Et donc pour la France, qui devient le tuteur de cette Syrie, donc à partir de 1922, il s'agit de découper la Syrie en plusieurs morceaux et de nier la patrie syrienne. C'est-à-dire il y a un morceau alaouite, il y a un morceau druze, il y a un morceau chiite, etc. Bon. Et nier la patrie syrienne, ça ne passe pas. C'est là-dessus que j'insiste, la patrie syrienne, ça existe dans la tête des Syriens depuis très très longtemps. Et donc, ça débouchera la pratique coloniale de la France, puisque c'est ça, diviser pour régner. La France coloniale l'a fait dans tous les endroits où elle a colonisé, et elle continue de le faire à l'occasion quand elle peut. Bon. Donc, il s'agit de diviser, et les Syriens n'en veulent pas. Et donc, il y aura, entre 1925 et 1927, une véritable guerre menée par les Syriens contre l'occupant français. L'occupant français, ayant un certain avantage militaire, finira par mater la rébellion, mais cette rébellion sera toujours là. Et donc ce sentiment d'une patrie syrienne à défendre contre les étrangers, il est resté très vivant, et il s'est encore exprimé très durement. La guerre de 25-27, la révolte arabe, c'est-à-dire, elle a duré 2 années complètes. Alors elle a eu des moments plus druses, mais enfin, elle a duré. Ça s'est un peu stabilisé, c'est-à-dire qu'in fine, la France a admis que c'était un pays unique, et qu'il n'y avait pas des morceaux découpés sur des bases ethno-religieuses. Bon. Et on aurait dû aller vers ce qui était le mandat normal de la Société des Nations, c'est-à-dire que la France aurait dû donner l'indépendance à la Syrie, que les Syriens réclamaient. Alors ça s'est fait sans se faire, c'est-à-dire, je rappelle que effectivement en 1938, le gouvernement donc d'Aladier accorde sur le papier l'indépendance à la Syrie. La guerre est en préparation, on le sait. Mais en fait, la décision qui est votée au Parlement en 1938 ne sera jamais appliquée. Enfin, ne sera pas appliquée, c'est-à-dire que le vote du Parlement reste lettre morte, et donc la guerre mondiale numéro 2 commence, la Syrie est encore sous tutelle française. Alors elle est sous tutelle française d'abord d'un général qui est pétiniste, donc sous tutelle française de Vichy, et puis à partir de 1941, elle va plutôt s'émanciper, et à la suite de combats, enfin je ne rentre pas dans le détail de cette histoire qui est plus récente, elle va passer du côté de la France libre, qui est un moment très très important. Mais c'est la Syrie qui bascule, c'est pas les uns ou les autres, c'est la Syrie qui bascule. La Syrie veut être indépendante, elle voit que le pétinisme c'est jamais que du nazisme, et donc elle le refuse, parce qu'on a toute une série de textes là-dessus, il est avéré qu'il y avait dans l'opinion publique syrienne, que ce soit chez les militants simplement nationalistes, chez les militants communistes et des tas d'autres, il y avait un refus du nazisme pour ce qu'ils étaient, et du fascisme pour ce qu'ils étaient. Donc c'est tout à fait... aucune surprise du fait que la Syrie soit tombée à partir de 1941 du côté de la France libre. Et puis, la fin de la guerre arrive et on a donc une Syrie qui voudrait être indépendante, puisque ça faisait partie du mandat de la Société des Nations. Et en fait, la France va encore s'y opposer. Va encore s'y opposer et on aura encore des interventions militaires en 1945, et ce n'est qu'en 1947 que la Syrie devient vraiment indépendante. Vous voyez donc ce combat permanent de la Syrie, toute ethnie confondue, tout courant religieux confondu, etc., pour être indépendante et devenir un pays de plein exercice. Et c'est très très important de se souvenir de ça, parce que cette Syrie toute nouvellement indépendante, on est en 1947, elle va avoir un rôle, elle va trouver sa place à l'Organisation des Nations Unies, elle est à l'Assemblée générale des Nations Unies, elle trouve sa place comme pays nouvellement indépendant, il n'y a aucun problème, même si c'est l'accouchement a été dans la douleur. Et le premier acte politique de cette Syrie désormais indépendante sur la scène internationale, c'est de prendre part au vote en 1947, au mois de novembre, sur le plan de partage de la Palestine. Élément tout à fait important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je rappelle, pour bien clarifier les choses, car on a tendance à toujours les embrouiller, l'Assemblée générale des Nations unies propose, l'Assemblée générale des Nations unies n'a pas le pouvoir de créer des États. Elle propose la création de deux États, un État sioniste et un État palestinien. Alors elle le fait d'une façon déjà extrêmement critiquable, puisqu'en fait les sionistes sont minoritaires sur le terrain, donc les Arabes palestiniens sont majoritaires, et en fait l'Assemblée générale des Nations Unies commet une première faute dramatique, dramatique, consistant à donner plus de terres de la Palestine au régime sioniste qu'aux Palestiniens. Hein, c'est de l'ordre de 55% pour les sionistes et 45% pour les autres. Bon, de toute façon, énorme faute, on ne dit pas je propose qu'il y ait deux pays, et dès le départ, on introduit une inégalité, il y en a un qui est favorisé par rapport à l'autre. Là, c'est typiquement une démarche néocoloniale, une démarche impérialiste de faire ça. On sent la main britannique, anglo-saxonne là-dedans et tout. Bon, nous portons, et les Palestiniens plus que jamais, portent le résultat de cette hypocrisie et de cette mauvaise politique menée dès le début. Bon. Ce qui se passe dans cette Assemblée générale, c'est que la Syrie va faire partie de ceux qui votent contre le partage de la Palestine. Alors il n'y a pas qu'eux, il y a par exemple l'Inde qui vote aussi, qui vient d'être indépendante, qui vote aussi, quelques autres pays, disons ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, qui vote contre. Mais ça passe, et donc effectivement, on a une Palestine qui est organisée sur ces bases-là, et c'est tellement clair qu'il y a un camp qui a été favorisé par les décideurs, donc la majorité, en fait, elle a permis à l'État sioniste de faire ce qu'il avait à faire et ce qui était préparé militairement, financièrement et tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État juif se proclame organisé, donc on est en 1948, l'État palestinien est oublié et l'ONU se tait. L'ONU a proposé deux États, il n'y en a qu'un seul, et bien l'ONU se couche. Je ne peux pas donner un autre terme, l'ONU se couche. Ce n'est hélas pas la première fois que l'ONU se couche sur la question palestinienne. On aura une foultitude d'exemples pendant la période qui s'est écoulée depuis. Retenons de tout ça. Cette Syrie, donc, qui s'est positionnée très très clairement pour la faveur d'une Palestine indépendante, s'est trouvée marginalisée comme seule république, seule hostile dès le début, car tous les autres pays arabes ont voté pour, hein, ceux qui étaient indépendants, et donc elle s'est trouvée dès le début en position isolée, c'est-à-dire d'un pays laïque, d'un pays qui défend les Palestiniens et qui défend le droit des Palestiniens à avoir un État, et qui, au fond, dérange toute la politique des sionistes et des États-Unis, qui est une politique qui vise à mettre le désordre dans le monde arabe. Et on ne tolère, enfin, vu de Washington et vu de Tel Aviv, ou de Tel Aviv, on ne tolère que les régimes arabes corrompus entre les mains de monarques extrêmement riches, et on ne tolère pas les démocraties dans les pays arabes. C'est très, très gênant. Alors, on est obligé de s'habituer un peu à la présence d'une Égypte où il y a quand même des libertés publiques, de temps en temps, ça monte, ça descend. Mais, alors, on est obligé de s'en accommoder, mais ça veut dire quand même que si on arrive à un moment donné, sous pression financière des États-Unis, à obliger l'Égypte a signé un traité de paix, il ne reste plus comme seul opposant à la politique sioniste et à leur volonté d'expansion et à leur volonté de tenir tout le Moyen-Orient et tout le Proche-Orient, il ne reste que la Syrie. Et donc, à partir du moment où on a bien compris ça, on sait que la Syrie va passer de très très mauvais moments et son peuple va passer de très très mauvais moments. Au point qu'aujourd'hui, on est dans la situation où son peuple est nié en tant que peuple. C'est-à-dire que, allons jusqu'au bout, la politique génocidaire menée par les sionistes à Gaza et en Cisjordanie, ils sont en train de commencer à la mener exactement sur le sol syrien, avec la complicité des Ottomans, des ottomanistes turcs de Erdogan, et la complicité de tous les régimes arabes qui ont donné de l'argent, qui ont financé les terroristes égorgeurs. Voilà la situation. Donc, je voulais faire tirer ce coup de chapeau, d'une certaine façon, aux Syriens, au peuple syrien, qui porte une longue histoire, qui s'est trouvé être le plus progressiste et le plus avancé et le moins impliqué dans la politique impériale, donc autonome dans ses finances, autonome dans son énergie, ayant mis en place une industrie, ayant. Alors, ça s'appelait la République arabe syrienne, c'était le parti Baas qui était à sa tête donc, depuis 1963 et depuis 1970, quand Hafez el-Assad a pris le pouvoir. Était un parti socialiste arabe, c'est-à-dire l'éducation était gratuite, la santé était gratuite. Bon, ça n'a rien à voir avec les autres régimes arabes de la région. Et à la limite, on se dit que cette solidarité arabe, il n'y en a pas. Hein, il n'y en a pas. La Ligue arabe, c'est une espèce d'endroit où on se fait des courbettes, on se parle la même langue, bon, ça va bien, mais on a des intérêts fondamentalement opposés, parce qu'ils sont politiquement opposés. Il y a d'un côté une république laïque, de l'autre côté des monarchies réactionnaires. Bon, très très clairement, riches par ailleurs, mais réactionnaires, et qui ne s'affrontent pas avec les grands puissants et avec l'impérialisme dont elles sont une espèce d'émanation. Voilà ce que je voulais dire synthétiquement. La Syrie souffre, le peuple syrien souffre, le peuple syrien est menacé dans son existence même par des puissances étrangères qui ont décidé d'éliminer cet obstacle à une espèce d'unification du monde arabe où tout le monde serait bien poli, bien aligné, bien honnête. Heureusement, d'autres forces, je n'ai pas parlé de l'intervention de la Russie, mais elle allait dans ce sens-là, l'intervention dans la guerre syrienne. Il y a des pays qui sont conscients de cette situation-là et qui, j'espère, interviendront pour éviter l'éradication du peuple syrien ou de la nation syrienne. Voilà ce que je voulais dire pour tirer un coup de chapeau et pour dire à tous mes amis syriens, qu'ils soient ici ou qu'ils soient là-bas, que je suis de tout cœur et de toute raison avec eux. Merci de votre attention.